Deutsche Welle, Économie et développement.
Si vous avez l'habitude de cuisiner, vous utilisez sans doute de la purée de tomates. Mais savez-vous d'où elle vient ? Est-elle produite localement afin de favoriser les emplois locaux ? Permet-elle aux agriculteurs de voir leurs revenus quelque peu assurés ? Au Bénin, une entreprise relève le défi. Dans ce numéro, nous parlerons aussi de l'action de la Welthungerhilfe. L'ONG allemande veut sécuriser l'accès et la propriété du foncier pour les agriculteurs burkinabés. Bienvenue à tous, c'est Claire-Marie Costman au micro. Trop de gaspillage de tomates dans les champs, ce fruit ne trouve pas toujours preneur au Bénin. C'est pourquoi l'entreprise Silva Tomate propose des débouchés en apportant de la valeur ajoutée. Elle transforme la production en purée en espérant concurrencer les importations étrangères. Notre correspondant Rodrigue Guézodje nous fait visiter les locaux.
À une centaine de kilomètres au sud-ouest de Cotonou, la capitale économique du Bénin, précisément dans le département du Koufou, Polikamé est une localité où la culture de tomates constitue la plus importante activité des producteurs agricoles. Mais ces derniers n'en tirent pas grand profit du fait du gaspillage de leur production et de l'inexistence d'industries capables de transformer le fruit-légume. Pour combler un tant soit peu ce vide, Sylvie Agbédé, la cinquantaine, et sa famille ont décidé de venir s'y installer.
Il y a assez de tomates qui sont jetées. Les gens n'arrivent pas à vendre. Surtout les femmes du champ jusqu'au marché. C'est pour cela que j'ai commencé depuis près de 16 ans à bricoler, à faire des essais sur essais et à présent, ça devient du réel.
Les petites économies réalisées sur plusieurs années lui auront donc permis de modifier une grande partie de la concession familiale en une véritable unité de transformation.
On peut conserver la tomate pendant 2 ans. Donc pendant la pénurie, on peut trouver de la tomate local et utilisé au lieu d'utiliser des conserves.
Seule entreprise de transformation de la tomate fraîche dans la région, elle ne parvient tout de même pas à exploiter toutes les récoltes des producteurs, surtout pendant les grandes saisons. Elle essaie toutefois d'améliorer sa capacité et la nouvelle petite industrie coûtera à Silva près de 20 millions de francs CFA. Dans la chaîne de production, tout commence par l'approvisionnement en matières premières. La tomate fraîche est achetée dans toutes les localités productrices de la région.
Nous allons vers les producteurs déjà ciblés et ils sont formés pour pouvoir respecter les normes de qualité dans la production. Et aussi, ils sont un peu curieux. Tantôt, tu vas vers eux, ils disent que forcément, ils doivent connaître le prix du marché avant de vendre. Donc, quelquefois, au lieu d'aller jusqu'au champ, on peut aussi les intercepté au marché.
Parmi les 27 agents, pour la plupart des femmes qu'emploie l'entreprise, un premier groupe dirigé par Marie Cheyon récupère le produit et lance le processus par la pesée.
On connaît déjà la table de la bassine, donc c'est le poids de la tomate que nous voulons prendre maintenant.
Ça fait 16 kilos.
Nous débarrassons la tomate des microbes qui vont nuire à la santé de l'homme. Nous faisons le lavage là 3 fois. La première eau, c'est l'eau de Javel. Deuxième eau, on rince. La deuxième fois, la troisième fois, c'est à l'intérieur que nous allons amener la tomate à celle qui s'occupe de l'épiépinage.
La tomate ainsi triée et épurée passera à la mouture, puis à la cuisson, ensuite à la concentration et à la pasteurisation avant son embouteillage. Silva Tomate est ainsi prête pour aller sur le marché. Viviane Immaculée-Aubet est la responsable commerciale.
Bon, là, j'ai la bouteille moyenne de 270 millilitres. Elle est vendue à 600 francs. C'est ça qu'on a en général sur le marché partout. Là, c'est la bouteille de 1 kg qui est vendue à 1800. La petite bouteille, ceux qui vont s'approvisionner dans les supermarchés, ils sont intéressés, ils prennent. Mais la grande bouteille, il y a de ces restaurants qui sont intéressés, mais là, c'est sur commande.
Réussir à conquérir le difficile marché béninois avec la purée de tomates, c'est la mission que se sont assignées Viviane Immaculée et son équipe commerciale.
Actuellement, je n'ai que 4 à 5 supermarchés auxquels je livre Mis à part ça, des petites boutiques, quelques ménages qui réclament de temps en temps, qui me font signe, qui viennent à la maison. Ce n'est pas encore un grand marché pour le moment. Quand la production sera plus grande, nous allons atteindre une taille plus grande également.
Label Bénin, une société spécialisée dans la promotion des produits spécifiquement made in Bénin, a accepté d'accueillir dans ses rayons la tomate Silva. Théophile Beria en est le gérant.
En fait, le fournisseur nous vend le produit. Donc nous, on met un peu de marge là-dessus pour faire nous, notre affaire aussi. Mais par mois, on écoule une vingtaine de boîtes.
En 2017, seulement un peu plus de 2000 bouteilles de tomates Silva ont été distribuées sur le marché. Une production qui mérite d'être encouragée et renforcée pour affronter les autres purées de tomates déversées dans le pays par des industries européennes et indo-pakistanaises. Aussi, d'autres entreprises béninoises devront-elles s'intéresser à ce secteur pour le bonheur des producteurs agricoles et pour arrêter le gaspillage de la tomate fraîche. Rodriguez Odier à Cotonou pour la Deutsche Welle.
Pour atteindre la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l'accès libre aux données ou open data en anglais est une solution, selon les experts de l'IFPRI de Washington. L'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires estime qu'utiliser ces informations est essentiel à la prise de décision, de la ferme au commerce, en passant par les industries et les gouvernements. Cela peut concerner la nécessité ou non d'irriguer, comment utiliser des engrais, mais aussi connaître les caractéristiques des plantes, où les semer et à quelle période. Et cela passe notamment par un meilleur accès aux outils de données tels que des applications de téléphonie mobile pour les agriculteurs. L'ONG allemande Welthungerhilfe a lancé un projet de sécurisation foncière à destination des petits exploitants agricoles au Burkina Faso. Un projet évalué à 180 millions de francs CFA pour tenter de lutter contre l'accaparement des terres. Si une loi existe déjà au sujet du foncier dans le pays, l'ONG veut faire de la pédagogie, organiser des réunions avec les populations, traduire les textes existants en langue locale pour qu'ils soient accessibles au plus grand nombre. Jean-Philippe Jarry, le directeur de la Welthungerhilfe au Burkina Faso, nous en dit plus, et notamment que ce projet va au-delà du Burkina.
Le programme sous-régional, c'est un programme financé effectivement par la Cour allemande, mais c'est un programme pilote. Qui a lieu au Burkina, mais aussi en Éthiopie en même temps, en Sierra Leone et au Libéria. Donc dans ce programme, le Burkina Faso est le seul pays francophone. Mais c'est vrai que sur tous ces pays d'Afrique, même si la situation et la problématique foncière n'est pas la même partout, il y a quand même une problématique générale, c'est d'accès à la terre pour les petits paysans, suite à la pression démographique. À l'explosion démographique dans certaines zones, donc avec un morcellement tel, qui fait que les exploitations sont de plus en plus réduites. Et puis dans certaines régions très localisées, ce qu'on appelle le land grabbing, soit donc des grandes sociétés qui préemptent du terrain pour des programmes agro-industriels, au paiement de la petite paysannerie locale, ou alors avec les sociétés d'exploitation mine, notamment au Burkina, c'est beaucoup l'or, qui s'emparent de grandes parties et de grands espaces où l'agriculture devient impossible.
Vous avez déjà sélectionné les zones au Burkina dans lesquelles vous allez travailler ?
On travaille en étroite collaboration parce que nous, on est juste un des membres partenaires de ce projet. Le partenaire d'implantation, c'est la Confédération Paysanne du Faso. Donc, c'est l'organisation agricole fêtière qui regroupe l'ensemble des organisations paysannes. Le programme a démarré concrètement au Burkina il y a 3 mois. Donc, on est en train de définir les zones. L'équipe revient d'une mission d'évaluation terrain au niveau du pôle de croissance de Bagré. Dans la région centre-est du pays. C'est certainement autour de ces grands pôles de croissance agricole et autour des grands pôles miniers qu'on va concentrer nos activités. Les agriculteurs dans toutes ces zones, c'est aussi un canal, je dirais, de subsistance, avec quand même, je dirais, l'important, une économie monétaire. Donc les propres polyvalents au niveau de leurs exploitations, leur préoccupation numéro un, c'est souvent les céréales, au travers le mil, dans les bas-fonds, le riz, plus tout ce qui est légumes, plus parfois le coton.
Voilà, vos agents se sont sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils ont constaté? Est-ce qu'il y a des pressions qui sont faites sur les producteurs pour que, voilà, vous parliez du grading, que les mines prennent possession de leur terrain, ou voilà, la pression démographique? Comment ça s'est traduit sur le terrain?
Ce n'est pas un phénomène généralisé et partout, mais localement, effectivement, là où il y a des populations, le Burkina est plutôt en avance sur ce des lois en matière foncière. La loi 034 au Burkina est plutôt une loi, je dirais, progressiste et en avance sur d'autres pays. Le problème, c'est l'application de cette loi et sa connaissance. Cette loi a été depuis un peu quelques années, mais les paysans ne la connaissent pas forcément. Et finalement, ceux qui la connaissent bien, ce sont donc les élites, parfois les élites économiques, ou les grandes sociétés, ils arrivent à l'utiliser plus à leur avantage que les paysans.
Quels droits sont protégés par cette loi?
C'est une loi qui vise à ce que la gestion de la terre, la gestion des terres, plutôt d'une manière consensuelle, donc en accord avec les autorités traditionnelles, en accord avec les communautés et les collectivités décentralisées, en accord avec le gouvernement. C'est l'esprit de la loi. Dans son application, des gens qui sont mal intentionnés ou malins peuvent toujours distiller de fausses informations, peuvent toujours faire signer à des gens qui n'ont pas toujours, qui ne sont pas toujours lettrés, qui ne sont pas toujours des gens habitués à signer des documents qui, finalement, sur le long terme, les désavantagent. Ce qui est important, c'est que les gens comprennent, tous les parties de ça comprennent que c'est à eux aussi de se défendre et de ne pas signer n'importe quoi, de se grouper, de recourir à l'arbitrage des autorités locales quand il y a un problème. Donc on voudrait que les populations les plus vulnérables, les jeunes, les femmes, les paysans pauvres, soient pleinement au courant des enjeux de cette loi et soient dans les tables rondes, dans les décisions, les grands projets, soient entendues et soient partie prenante.
Vous l'avez dit, les femmes sont souvent vulnérables quand il s'agit du foncier. Est-ce que là, vous avez une mission aussi spécifique d'elles?
Le mot est toujours un petit peu galvaudé dans le développement. Ce sont aussi, du moins, nos bénéficiaires prioritaires. Les femmes et les jeunes exploitants sans terre. Ou du moins, qui n'ont pas de terre, mais de par la démographique, si au bout de quelques générations, une grande ferme à chaque héritage est beaucoup très morcelée, et finalement, les paysans se retrouvent un peu de surface exploitable.
Ce magazine est en réécoute sur notre site dw.com/français, rubrique médiathèque. Vous pouvez aussi le retrouver sur notre page Facebook DW Français. Merci pour votre écoute, au revoir et à la semaine prochaine.